Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire, notamment grâce aux apartés intellectuellement toujours haut de gamme de Céline Dacosta et Eva Rock, les Catherine et Liliane Empire, comme on les surnomme dans la rédaction d'Europe 1. Catherine et Liliane qui hier commentaient avec méchanceté, mais en même temps excitation quand même, l'évolution physique d'un célèbre acteur français que nous ne citerons pas.
Et je me suis dit qu'il avait quand même sacrément pris un coup dur. Bon, il reste quand même, il dormirait pas dans la baignoire quand même, tu vois. Mais...
Eh oui. Bah, le problème, c'est que maintenant, on visualise Gérard Jugnot dans la baignoire sabot de Céline Dacosta. Et on n'avait pas forcément envie de ça, 7h du mat. Heureusement, Debout les copains, c'est aussi Fabrice d'Almeida. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin revient sur un anniversaire, 20 juin 451, défaite d'Attila dans les plaines de Champagne. Attila qui était évidemment Céline, le chef des 1.
Voire 2.
Non, c'est le chef des 1, Céline.
C'est drôle ça. Merci d'écouter Europe 1, nous sommes le jeudi 20 juin. Et il est 6h, vraiment. 5h, 7h, c'est à vous Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 20 juin. Bonjour Sébastien Kreps.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Sébastien.
La soirée agitée des habitants de Toulouse, spectaculaire orage cette nuit. Du vent, des grêlons, des images impressionnantes, témoignages dans un instant. Un homme arrêté en Grande-Bretagne dans l'enquête sur la mort du footballeur Emiliano Sala. Il s'agirait d'un pilote, il aurait dû être aux commandes ce jour-là de l'avion qui s'est écrasé dans la Manche. Et puis les chiffres des cambriolages, ils ont augmenté de 50% en 10 ans. Et ils ont lieu dans la très grande majorité des cas en plein jour.
Europe 1.
La tempête a été brutale et intense. Toulouse, hier soir, du vent mesuré à 137 km/h, du jamais vu depuis 1999. Des grêlons de 2 cm qui ont vite recouvert les rues. Vous avez peut-être vu ces images, ces vidéos qui circulent depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Grosse frayeur pour Juliette, notamment, elle est restée bloquée dans sa voiture.
Au début, il y avait juste des éclairs, en fait. Il y en avait peut-être 30 toutes les 10 secondes. C'était incroyable. Et au bout d'un moment, ça s'est mis à tomber d'un seul coup. C'était très impressionnant. Vraiment, en l'espace de moins de 10 secondes, il y a eu une pluie torrentielle. Dans la voiture, on sentait clairement qu'il y avait du vent. Et surtout, en fait, il y avait tellement d'eau et de vent, on était bousculés en tous les sens, en fait. C'était des rideaux d'eau et de grêle. J'ai eu une grosse frayeur parce que vraiment, c'est un trajet que j'ai beau connaître par cœur. J'avais plus de batterie, j'étais seule dans la voiture. Il y avait des tonnes de voitures arrêtées sur le côté. Donc ouais, c'était vraiment effrayant.
Une habitante de Toulouse, jointe pour Europe 1 par Roman Hoquet, des orages violents également dans les Hauts-de-France, avec des inondations sur certaines communes et une maison touchée par la foudre à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord. La toiture a été complètement détruite par l'incendie qui a suivi. Aujourd'hui, le temps restera orageux sur les Pyrénées et le Nord-Est.
Rebondissement dans l'enquête sur la mort du footballeur Emiliano Sala. Un homme a été arrêté.
Le joueur argentin est mort, vous vous en souvenez, dans le crash de son avion. C'était le 21 janvier dernier, alors qu'il rejoignait Cardiff, son nouveau club. La police britannique a annoncé hier soir avoir interpellé un homme, un pilote. C'est lui qui aurait dû être aux commandes ce jour-là. Il est soupçonné d'homicide involontaire. À Londres, Anaïs Cordoba.
La police refuse de divulguer l'identité du suspect, mais selon le Times, il s'agit du pilote David Anderson. Cet homme de 64 ans, originaire de la ville de York, avait été contacté par l'agent Willie McKay, impliqué dans le transfert de Salah pour conduire le footballeur de Nantes à Cardiff. Une offre qu'il accepte, puis décline en raison d'une urgence familiale. Il suggère alors le pilote David Ibbotson pour le remplacer. C'est lui qui effectue le vol et s'habille en mer avec Emiliano Sala. Son corps n'a jamais été retrouvé. Selon la presse britannique, David Ibbotson n'était pas habilité à effectuer des vols commerciaux ni à voler de nuit. David Anderson est soupçonné d'homicide involontaire. Il coopère avec la police du Dorset, qui l'a relâché hier après sa garde à vue. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Les chefs d'État européens ont rendez-vous aujourd'hui à Bruxelles. Sommet particulièrement important parce qu'il s'agit de se mettre d'accord sur les nominations aux postes clés, choisir notamment le président de la Commission européenne. On sait qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel sont en désaccord. Le président français sera présent à Bruxelles avec plusieurs heures d'avance aujourd'hui pour enchaîner les rendez-vous avec ses homologues. Patrick Balkany et son épouse seront fixés sur leur sort le 18 octobre. Le second volet du procès pour blanchiment et corruption s'est achevé hier soir. Le parquet financier a requis en tout 11 ans de prison, réquisition qualifiée de monstrueuse par l'avocat Éric Dupond-Moretti. On y revient dans le journal de 6h30.
Les Français, très mauvais élèves en termes de vaccination. Nous serions même les plus sceptiques au monde.
Oui, la défiance envers les vaccins serait en France bien plus élevée qu'ailleurs. C'est la conclusion d'une étude de l'Institut Gallup qui a interrogé les habitants de 144 pays. La France arrive en tête parmi les pays les plus sceptiques. Un Français sur trois dit ne pas faire confiance aux vaccins. Un sur dix estime qu'il n'est pas important de les faire à leurs enfants. Pourquoi une telle méfiance ? Quelques pistes d'explication avec le docteur Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin.
Les causes de ce scepticisme, elles sont assez nombreuses. Peut-être que la première cause, c'est que les maladies contre lesquelles on vaccine ont maintenant beaucoup diminué. Certaines ont même disparu, comme la variole, sont en voie d'élimination, comme la polio. Donc il y a vraiment cette problématique de ne plus en voir les bénéfices et d'en voir essentiellement les risques. Et puis après, il y a des problématiques qui sont propres à la France, qui a connu plusieurs problématiques autour de la vaccination, les liens entre la vaccination hépatite B et la sclérose en plaques, et puis d'autres scandales sanitaires comme le Mediator, le Levothyrox plus récemment, qui font qu'il y a aussi un manque de confiance vis-à-vis des autorités de santé et des risques que peuvent comporter les médicaments au sens large.
Les propos recueillis par Pierre Herbulot pour Europe 1. Et puis c'est aujourd'hui que les experts de l'Agence du médicament doivent présenter les détails de l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Une première en France, elle doit commencer l'année prochaine. Le cannabis pourra être prescrit contre la douleur dans 5 pathologies uniquement, en soins palliatifs ou pour la sclérose en plaques par exemple. S'il vous est déjà arrivé d'être cambriolé, vous vous souvenez probablement, au-delà des conséquences matérielles, du choc psychologique que cela peut entraîner. Il y a en France un cambriolage toutes les 2 minutes selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 50% de plus qu'il y a 10 ans. Et Yasmina Katou, les assurances alertent sur un chiffre, 70% ont lieu en plein jour.
Oui, car les voleurs sont de plus en plus rapides. Un cambriolage, c'est entre 4 et 6 minutes, révèlent les experts. Dans 46% des cas, les cambrioleurs visent les bijoux, faciles à transporter et à revendre ensuite. Mais un vol, ce n'est pas qu'une perte matérielle. Selon l'étude, 70% des sondés disent avoir eu des symptômes d'anxiété après un cambriolage. Alors peu le savent, mais la plupart des assurances proposent aux victimes un accompagnement psychologique. Les syndromes post-traumatiques ne doivent pas être négligés, selon Arnaud Ferrari, psychologue pour un groupe d'assurance.
C'est souvent évoqué comme un viol, et sur le plan psychologique, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. On perd un sentiment de sécurité, ça porte atteinte à notre intégrité psychologique. Et en fait, le fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça nous permet de nous en distancier un peu.
Le meilleur moyen d'éviter le traumatisme reste de protéger sa maison. En fermant sa porte, par exemple, dans 55% des cas, la porte d'entrée n'était pas verrouillée.
Et Yasmina Katou pour Europe 1. Et puis je vous donne ce chiffre, Mathieu, pour terminer ce journal, ou plutôt ce prix, 300 millions d'euros. C'est le tarif fixé par le PSG pour qui voudrait s'offrir Neymar. 300 millions, ce serait un record absolu, un nouveau record en termes de transfert. Le problème, selon le Parisien, c'est que presque aucun club de la planète ne peut se le permettre. Cet été, la star brésilienne est aujourd'hui sous contrat avec Paris jusqu'en 2022.
Merci beaucoup, c'était le journal de Sébastien Krebs.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Ce matin, retour sur un 20 juin mythique, le 20 juin 451, la défaite du redoutable Attila, chef des Huns. À la fin, il paraît qu'ils étaient deux. C'est fou ça, Céline, non ?
C'est dingue, ça, bon réveil à tous.
Ouais, je sais.
Il est 6h08. Il est 6h08, Mathieu Noël.
Et tout de suite, on fait un point sur la météo, ma chère Céline, avec un temps encore agité.
Oui, c'est vrai, encore des orages.
Pas aussi agité que vos feuilles,
et ça sur les 3/4 du pays. Ça y est, je l'ai retrouvé. Il reste du soleil sur un quart nord-ouest qui devrait gagner du terrain cet après-midi jusqu'en région centrée et en Île-de-France. Mais pour les autres, c'est nuageux, voire pluvieux, voire orageux, pardon, toute la journée entre le sud-ouest et le nord-est, avec des températures qui vont baisser cet après-midi. La moyenne ira de 18 à 25 degrés, un petit peu plus près de la Méditerranée.
Merci Céline. Et Varroc.
Eh bien, depuis ce matin, 5h, on vous demande quelle est la chanson qui vous booste automatiquement. Dès que vous l'entendez, hop, c'est reparti. Eh bien, vous êtes très nombreux à nous répondre sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
La Java de Broadway.
La Java de Broadway. C'est vrai, ça vous
oui,
aimez
j'aime bien, oui.
Ouais, c'est bien, c'est bien. Les Blues
on
Brothers.
On a le droit d'aimer Michel Sardou,
mais oui,
vous savez.
Les Blues Brothers sous Sing Aretha Franklin, nous dit Jean-Sébastien. Et puis Carole nous a dit ça.
Mambo number 5.
Que je confonds avec Chihuahua, moi.
Non, voilà. Carole, ne dites pas n'importe quoi.
Bah, oui.
Mambo number 5.
Chihuahua, c'est vrai, ça marche.
Ça, c'est vraiment ma jeunesse. Je ne sais pas quel est l'auditeur.
Chihuahua.
Ils sont là.
C'est Carole.
Ma Carole, qui vous adore. Je vous embrasse fort, Carole.
Elle aime beaucoup
Zazie
aussi.
Nous avons les mêmes références entre mélomanes, on se comprend.
Elle adore Zazie Speed, hein, comme vous.
Moi aussi.
Vous voyez,
mais voilà.
Vous êtes fait l'un pour l'autre.
Certainement.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est, mesdames...
N'importe quoi.
Je vous en prie, ne préjugez pas de ce qui va suivre. C'est, mesdames, un véritable torrent de stupre.
N'importe quoi.
Qui déferle dans vos veines lorsqu'il arrive en studio.
Et il est beau, lui, hein, le petit beau gosse.
Oui, sa vision irradie chaque centimètre carré de votre peau et vous sentez l'excitation monter en vous.
Même dans les zones les plus sensibles.
Voici Jérôme Lacroix pour le journal du Mondial.
La Coupe du Monde féminine.
L'événement foot est sur Europe 1.
Au sommaire ce matin, mon GG.
Plongé vers le huitième de finale dimanche pour les Bleus. À partir d'aujourd'hui, concentration maximale avec une journée à huis clos après hier. Un programme plutôt détente des Françaises qui ne connaissent toujours pas ce matin leur adversaire. Mais promis, on le connaîtra ce soir. Et puis le retour attendu d'une vague orange. Les supporters des Pays-Bas sont de nouveau de sortie ce soir. C'est à Reims.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
Mais d'abord, ce match fou hier soir au Parc des Princes, Écosse-Argentine, 3 buts partout, dernier match du premier tour du groupe D. Vous entendez ici les supporters lors du dernier pénalty, lors du dernier but inscrit par ces Sud-Américaines qui n'avaient pas inscrit un seul but en 2 matchs pour l'instant. Et elles sont parvenues à en inscrire 3 hier soir en à peine 15 minutes, synonyme de folle remontée. Parce que les Écossaises menaient 3-0. Le dernier but, je vous le disais, inscrit sur pénalty à quelques poussières de seconde de la fin. Pénalty qui a été donné à tirer une seconde fois, comme pour la France face au Nigeria. Ces Argentines et leur Grinta peuvent du coup toujours espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Les Écossaises sont éliminées dans l'autre match d'hier entre 2 nations déjà qualifiées pour les huitièmes. Victoire des Anglaises 2-0 face aux vice-championnes du monde japonaises.
Des nouvelles des Bleus, je vous pose à nouveau la question, est-ce qu'elles connaissent enfin leur adversaire en huitième de finale dimanche prochain ?
Eh ben non, on ne sait pas encore quel meilleur troisième de groupe
elles vont jouer contre elles-mêmes.
Oui, je le mérite. Mais je peux vous dire par contre qu'on le saura ce soir à l'issue des derniers matchs du premier tour. Pour l'instant, la probabilité la plus forte, c'est toujours le Brésil. Hier, quartier libre l'après-midi, l'occasion pour certaines joueuses de profiter des proches, déjeuner sur le port, flâner en ville. Et avant-hier, il y a eu ce nouvel entraînement en public au Havre, avec toujours les fans mobilisés, une ferveur que l'attaquante Viviane Asseyi ose à peine toucher du doigt.
On ne s'en rend pas bien compte de ce qui se passe autour de nous. On est vraiment dans notre bulle, on est vraiment concentré dans le foot. Après, on sait forcément que grâce aux résultats, ça va donner l'envie aux petites de faire du foot. Et ça, c'est que du bonheur. Parce que voilà, nous aussi, on était à leur place. Quand on était petites, on voulait ressembler à un tel, tel, tel.
Et aujourd'hui, c'est vase clos hein, pour les Bleus, toujours au Havre, théâtre du match dimanche. Elles ne verront personne. Match dimanche, 21h et soirée spéciale sur Europe 1.
L'équipe à suivre aujourd'hui, c'est les Pays-Bas.
Oui, leurs supporters avaient transcendé les rues de Valenciennes lors du premier match, c'était il y a quelques jours, tous deux orange vêtus. Ils sont à nouveau attendus aujourd'hui à Reims pour Pays-Bas-Canada. Choc entre deux ambitieux, déjà qualifiés pour les huitièmes. Coup d'envoi 18h, comme Cameroun-Nouvelle-Zélande, avec ici l'espoir d'une possible qualification. Puis à 21h, Thaïlande-Chili et le retour des championnes du monde américaines, Suède-États-Unis.
Merci beaucoup, c'était le journal du Mondial avec Jérôme Lacroix qui, derrière tous ses muscles, cache aussi un cerveau d'une puissance assez redoutable. Je parle sous le contrôle d'un agrégé d'histoire qui nous a rejoint, Fabrice d'Almeida. Mais quand même, écoutez Fabrice, écoutez plutôt la force de déduction. C'était hier chez Nikos.
Get up, stand up. Get up for your rights.
Bob Marley.
Ah, ça va très très vite là-dedans, hein. Il est très fort. Nos neurones sont échauffés, on peut passer à la rubrique histoire.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice d'Almeida.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous avez choisi un sujet qui va plaire à Céline Dacosta. Elle est toute oui. Vous avez choisi d'évoquer une bataille qui a stoppé l'invasion de la Gaule par les Huns. Le 20 juin 451, pourquoi est-ce une date importante encore aujourd'hui ?
Bah, la bataille des champs cataloniques, c'est déjà la plus grande de son époque, avec plusieurs centaines de milliers de combattants. Imaginez une vaste plaine entre Châlons en Champagne et Troyes, c'était jadis le territoire d'une tribu gauloise, les Catalones, d'où son nom. D'un côté, les Huns, avec leur roi Attila, ils ont tout gagné, battu l'Empire romain d'Orient, écrasé les peuples d'Europe orientale et centrale. À leur seul nom, le monde entier tremble de peur. Des Germains combattent avec eux. En face, le général romain Aécius. Il commande ses légions et les alliés de Rome, les Visigoths, les Burgondes et surtout les Francs du roi Mérovée. La veille, chacun a choisi ses positions. Enfin, tard dans la journée du 20 juin, les Huns chargent au centre. Les carrés de fantassins, Francs et Romains, résistent au choc. La cavalerie visigothique en profite pour attaquer les Flandéens et brise leur rang. Le soir venu, 162 000 cadavres jonchent le sol.
Mais Attila est-il vraiment battu ?
En fait, il est affaibli. Mais Aécius hésite à attaquer. Il laisse donc Attila quitter le champ de bataille, ce qui fait que c'est une grande victoire pour les Gallo-Romains et nos ancêtres, les Francs, d'où l'importance de cette date dans notre mémoire nationale.
Et Attila était-il un être cruel et barbare, comme on l'imagine souvent ?
Bah, figurez-vous qu'il a été élevé à la cour de l'empereur romain d'Orient. Il a même connu Aécius quand ils étaient jeunes. Au fond, tous les participants à ce conflit étaient plus ou moins romanisés. Un exemple, les Francs. Bah, ils se battaient à la romaine, avec des armes romaines. Donc, longtemps après, dans les manuels scolaires, après la défaite contre l'Allemagne en 1870, les chants cataloniques prouvaient que la France, c'était la civilisation contre la barbarie, et qu'unis, le pays était plus fort. Des idées qui sont encore à la base de notre patriotisme.
Merci beaucoup Fabrice Almeida, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15, et pour faire plaisir à Céline Dacosta, on rappellera quand même le célèbre slogan d'Attila, les uns, il n'y en a pas deux.
Europe 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continue. Deux heures d'actu et d'invités qui la font. Ce matin, on va rappeler une chose importante. Le plastique, c'est pas fantastique. À part celui, cher à Céline et Jérôme, qui sert à nous protéger.
Merci d'avoir choisi, en fonction de mes goûts.
Tu préfères ?
Ouais, tu sais bien.
Ou t'aurais préféré spéculoos, que je sache pour la prochaine fois.
À part ce plastique-là, le plastique, ça suffit. À 6h20, nous recevons Romain Troublé, le directeur de la fondation Tara Océan, alors qu'une expédition est en cours pour récupérer du plastique dans 10 grands fleuves d'Europe.
Bon réveil à tous, il est 6h16. Il est 6h18, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Qui présidera la Commission européenne ? Les chefs d'État et de gouvernement européens se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour se répartir les postes clés de l'Union. Emmanuel Macron et Angela Merkel sont en désaccord. Un ancien président jugé pour corruption du jamais vu sous la Ve République, Nicolas Sarkozy, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour corruption dans l'affaire dite des écoutes. Enfin, la gauche et la droite tenaient meeting commun hier soir, le PS, les Insoumis et les Républicains, tous contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Ils veulent rassembler 4 millions de signatures pour pouvoir provoquer un référendum sur le sujet.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les principaux titres de ce 20 juin. L'actualité, c'est aussi la nouvelle expédition scientifique Tara qui a débuté depuis 3 semaines sur les grands fleuves européens. Objectif, mieux comprendre la pollution par les plastiques. Bonjour Romain Troublé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes le directeur général de la fondation Tara Océan. Alors depuis le 27 mai dernier, la goélette Tara vogue donc sur différents fleuves d'Europe pour mieux comprendre cette pollution. Depuis 2014, vos précédentes missions ont mis en évidence l'omniprésence des particules plastiques dans tous les océans. Hélas, les fleuves ne sont pas épargnés par la contamination. Pire, c'est d'eux que vient l'essentiel de la pollution plastique.
C'est de là que fuit tout ça, ouais, bien sûr.
C'est en amont, en fait.
C'est qu'en amont, bien sûr.
Et donc, ça veut dire concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui se diraient, oh bon, des traces de plastique, ok, il y a quand même plus grave aujourd'hui, il faut bien remonter aussi en amont le fil de l'histoire, en quoi c'est gravissime.
Parce que le plastique qu'on a mis dans l'océan, en fait, il coule dans l'océan depuis notre territoire, depuis 50, 70 ans, depuis qu'on a inventé cette matière, matière magique, hein, quand même, qui fait beaucoup de choses. Et on en fait des usages qui sont parfois superflus ou très, très, très courts. Et donc, tous ces plastiques aujourd'hui terminent dans les petits cours d'eau, s'envolent, finissent dans la mer, finissent dans les fleuves. Et puis, on a une véritable fuite de plastique, finalement, dans les fleuves, dans la mer. Depuis l'Europe, et on parle beaucoup de l'Asie, qui est censée être la plus poubelle du monde. Mais l'Europe est le deuxième. On estime que 600 000 tonnes de plastique quittent les côtes européennes. Les territoires européens chaque année.
Alors la France va peut-être décrocher même le bonnet d'âne. J'ai lu que la France, qui vante pourtant sa politique écologique, est par exemple le pays qui rejette le plus de déchets plastiques, 11 200 tonnes. C'est le pays qui rejette le plus de plastique de tout le pourtour méditerranéen, selon WWF.
Il se trouve que le fleuve, le Rhône, est le fleuve qui charrie le plus d'eau en Méditerranée, donc ça c'est lié aussi à ça. Mmh. Et après, tout ça c'est des estimations, on estime... on n'a pas mesuré tout ça, donc c'est vraiment une façon de voir les choses.
Il n'y a pas de mesure aussi quand on dit que la Méditerranée est la mer la plus polluée du monde. Ça, c'est une légende urbaine ou il y a quand même des mesures ?
Non, il y a 5 ans, avec Tara, on a passé 8 mois en Méditerranée. Et on a investi beaucoup de fonds dans l'étude de la Méditerranée, de Beyrouth à Gibraltar et de Marseille à Alger. Et ce qu'on a mesuré en Méditerranée, c'est les mêmes concentrations de plastique qu'on trouve dans ce fameux continent de plastique du Pacifique. La même chose. Même ordre de grandeur, si vous voulez. Donc, cette Méditerranée, elle est fermée, elle a 400 millions de personnes dans son pourtour, ça a doublé de population en 30 ans. Il y a des enjeux colossaux dans cet espace de la planète.
Alors, vous traquez plus particulièrement la pollution aux microplastiques. Qu'est-ce qu'on appelle exactement les microplastiques ?
Et en fait, tous les plastiques qu'on consomme sont de plus différentes tailles. Et puis, quand ils se retrouvent dans l'environnement, ils sont soumis au rayonnement ultraviolet, à l'action mécanique de l'eau, des routes, par où ils passent. Et finissent par se fragmenter en petits morceaux, de plus en plus petits, jusqu'à des nanoplastiques qui font la taille des fibres, qui font la taille de trucs tout petits, petits, petits.
Mais quand vous dites tout petits, petits, on les voit à l'œil nu
ou... Certains les voient à l'œil nu, c'est ce qu'on appelle les microplastiques. Et puis il y a les petits microplastiques qui sont, eux, pas visibles à l'œil nu, qui sont quelques microns, et parfois quelques nanomètres, comme les épaisseurs de cheveux. Donc on est vraiment dans une pollution qui est un peu partout. Et finalement, on se rend compte que ça veut dire nettoyer ça va être compliqué. Et donc, il faut s'intéresser à ce flux de plastique qui coule toute chaque année. Et comment on arrête ça dans nos territoires ? Et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Tara.
Vous voulez dire que là, on en est à un tel niveau qu'on ne pense même plus à nettoyer les mers. On pense à solutionner le problème en amont, ce qui est évidemment la solution. Mais enlever le plastique des mers, c'est même pas faisable.
Je pense que les gros macro-déchets, les gros plastiques, ceux qu'on voit à l'œil nu, qu'on peut ramasser avec la main, bien sûr qu'il faut les nettoyer. Et il y a plein de projets dans le monde entier qui se montrent là-dessus. Mais ça ne sera pas la solution. Quand on voit ce qui chaque année on y met, c'est comme si dans votre salle de bain, vous d'abord, avant de couper une fuite d'eau, vous épongez d'abord l'eau. Non, d'abord, il faut trouver la fuite, arrêter cette fuite. Et ça, c'est les territoires, c'est nous tous. C'est pas l'industrie, c'est tout le monde, l'industrie, les consommateurs, les citoyens qui devront agir avec les collectivités locales.
C'est quoi l'impact sur l'environnement et sur la faune marine ? Ça a vraiment un impact direct, genre du plastique qui traîne dans l'eau, ça entraîne des disparitions d'espèces ?
C'est un impact direct, c'est mangé par beaucoup d'organismes, ça interagit beaucoup, et plus c'est petit, plus ça interagit avec les micro-organismes marins qui sont essentiels à la chaîne alimentaire. On voit beaucoup des images de tortues, ça c'est très important et c'est véridique. Mais à un niveau microscopique, il y a énormément d'interactions comme ça, qui rentrent dans la chaîne alimentaire. Finalement, un peu comme les particules dans les villes aujourd'hui qui nous reviennent quand on respire. Finalement, tout ce qu'on met dans l'environnement, il nous revient à un moment. Et les fleuves sont un des principaux vecteurs, en tout cas, pour les pollutions vers la mer.
Eva Roche.
Alors justement, cette étude des fleuves que vous réalisez en collaboration avec le CNRS et 40 laboratoires, vous avez réalisé des échantillonnages à la surface de l'eau et à 50 mètres de profondeur. Quelles sont les premières observations ?
On a déjà fait depuis 3 semaines étudier le fleuve de la Tamise et l'Elbe. On était hier à Hambourg. Et en fait, on se rend compte qu'on a longtemps cru que le gros plastique coulait de nos fleuves et arrivait en mer et se fragmentait en mer en microparticules. Et ce qu'on a mesuré en amont de ces grandes villes, en amont beaucoup de microplastiques sont déjà très petits, moins d'un millimètre. Donc en fait, cette fragmentation, elle a lieu entre le moment où la pollution se trouve dans l'environnement et le moment où elle arrive, elle coule. Et parfois, il peut se passer 30 ans, 20 ans, 15 ans. C'est un processus qui a été lancé il y a 50 ans, donc on est en train de voir un peu les conséquences aujourd'hui.
Alors, les mentalités sont quand même en train de changer. Si on veut être optimiste, on peut voir que, par exemple, la Commission européenne interdit les pailles, toutes les choses jetables en plastique, les fourchettes en plastique, tout ça, ça va s'être amené à disparaître. En revanche, il y a quelques jours, la marque Tropicana a annoncé l'abandon des bouteilles en verre pour repasser à la bouteille plastique. Donc parfois, on a des signaux contradictoires qui nous arrivent comme ça. Vous arrivez à rester optimiste ?
Moi, je suis optimiste. Je suis un marin, je suis toujours optimiste et marin. Oui, il y a beaucoup de signaux qui sortent aujourd'hui. On voit bien que la génération qui arrive va demander des produits qui sont durables de plus en plus, au moins dans les pays occidentaux. On voit l'Europe qui se mobilise, comme vous dites, sur les trucs de base, sur le bon sens, le bon sens, j'ai envie de dire, en action. On voit que le G20 vient de déclarer que les pays d'Asie, des pays du G20, allaient se mobiliser pour s'entendre sur ces enjeux de pollution plastique. On voit que la Chine refuse les déchets des pays occidentaux désormais, et qui maintenant, en Europe, on doit s'organiser pour savoir comment on va faire pour gérer tous ces flux, et les valoriser surtout. Donc, moi, je suis optimiste sur ce qui bouge, sur les signaux qu'il y a aujourd'hui. Mais ça bougera que si les gens bougent.
Et une dernière question, est-ce que les plastiques nouvelle génération biosourcés, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, sont une solution pour l'avenir ? C'est quoi un plastique biosourcé ?
Un plastique biosourcé, c'est un plastique qui est tiré de matières premières biologiques. Et mes problèmes, c'est qu'on en fait du polyéthylène. C'est pas biodégradable.
Ah, pardon, donc ça n'a pas d'intérêt alors ?
Non.
Ce n'est pas une solution.
Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont dans les plastiques qui sont construits par des bactéries, qui sont encore d'autres choses, qui sont peut-être demain l'avenir. On a encore au balbutiement. Et je rappelle que cette recherche sur le plastique sur les fleuves, ça date de 5 ans seulement. Donc on commence tout juste à comprendre ce qui se passe.
On en est qu'au début. Merci beaucoup Romain Troublet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la fondation Tara Océan.
Merci. Europe 1.
Il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec celui qu'Albert Londres considérait comme son seul héritier valable, David Doucan. Et puis la météo, des températures en baisse et encore des orages dans l'est du pays.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Et on fait un point sur la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. Un ciel encore mitigé aujourd'hui.
Oui, beaucoup de nuages, des averses ponctuelles, encore quelques orages qui se situent ce matin sur une ligne sud-ouest nord-est du côté de Rodez, Bergerac, en remontant vers Grenoble et Mulhouse. Là où c'est plus calme, c'est dans le nord-ouest pour la Bretagne, les Pays de la Loire, le nord du Poitou-Charentes. Et en remontant vers la Normandie et le Pas-de-Calais avec de larges éclaircies. Près de la Méditerranée, là aussi c'est sec avec un soleil voilé cet après-midi, à peu près le même scénario. Toujours des orages qui sont un petit peu plus nombreux sur le flanc est et sur les Pyrénées. Le soleil va gagner un petit peu de terrain sur le nord-ouest. C'est le Poitou-Charentes qui sera ensoleillé, la région centre, l'Île-de-France et les Ardennes. Ciel dégagé aussi entre la Côte d'Azur et la Corse.
Et les températures, elles sont en baisse.
Oui, cet après-midi, elles baissent bien. 18 à 25 degrés, on fera 22 à Paris contre 27 hier, même 30 avant-hier. Ça va rester chaud en revanche dans le sud-est avec 27 à 31 degrés. Et puis ce matin, les températures vont de 8 à Brest, c'est la plus basse en passant par 16 à Bordeaux, 18 à Paris jusqu'à 21 degrés déjà du côté de Lyon. Quelques conseils pour ceux qui vont affronter les orages. Il y en aura pas mal encore dans les jours à venir. Le premier est de vous abriter, ça paraît évident, mais préférez, si vous pouvez le faire, des abris en pierre. Votre véhicule est un très bon abri aussi, ça vous le savez, surtout s'il n'est pas décapotable. Se faire tout petit, si vous êtes dans un champ loin d'abri et de voiture, faites-vous le plus petit possible, recroquevillez-vous au sol. Si vous êtes en groupe, isolez-vous les uns des autres. Si l'une des personnes est foudroyée, la foudre peut se propager à une personne, d'une personne à l'autre par un éclair latéral. Et puis alors, si vous êtes chez vous, des choses qu'on ne sait pas, débrancher des appareils électriques, ça peut-être que vous le faites parce qu'une télévision peut même exploser si la foudre s'invite chez vous. Et surtout, ne prenez pas de douche ni de bain, ça on le sait moins.
Ne faites pas la vaisselle.
Ouais. Ah,
exactement, parce que la foudre peut se propager dans les canalisations et même en faisant la vaisselle, effectivement, vous avez raison de le préciser.
Ah, moi, je ne fais jamais la vaisselle, ça c'est comme ça au moins.
Pas de vous n'avez aucun risque, tranquille, c'est sûr. Voilà pour les petits conseils en cas d'orage.
Merci Céline. À suivre sur Europe 1, les 3 fantastiques et le journal de 6h30 de l'insolent David Doucan.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos que parcourt un frisson d'allégresse, mais l'allégresse n'empêche pas la précision. Précision qui est vraiment la marque de fabrique de ma consoeur Céline Dacosta, journaliste de Chaque Instant, puisque même durant la coupure pub, elle continue d'analyser l'actualité à travers le visionnage attentif des chaînes info qui tournent sur les écrans de notre studio.
Moi je trouve que Platini maintenant il ressemble à Bourdin, là, de des inconnus là.
Bourdon.
Oui, l'imprécision est encore plus grande. À suivre. Politique, économie, médias, les 3 fantastiques arrivent. Axel de Tarly nous fera notamment un point sur ces métiers amenés à être exercés prochainement par des robots. Ah, Eva, vous passez à la compta, je crois que votre remplaçant est arrivé.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Heure, 7h, Mathieu Noël.
Le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
À Bruxelles, on appelle cela les top jobs. Président de la Commission, président du Conseil, haut représentant de la diplomatie, etc. Ils font l'objet d'un âpre bras de fer, notamment entre la France et l'Allemagne. Les chefs d'État et de gouvernement vont tenter de se mettre d'accord aujourd'hui. Un ancien chef de l'État devant des juges, sur le banc des prévenus, pour corruption. C'est bien ce qui va arriver à Nicolas Sarkozy. Un coup dur de plus pour la droite qui oscille entre incrédulité et lassitude, reportage dans ce journal. Et puis nous irons à Belfort, où les salariés de General Electric utilisent tous les moyens pour retarder la mise en place du plan social.
Europe 1.
Qui va diriger l'Europe ? Le mercato post-élection européenne touche à sa fin. Président de la Commission ou du Conseil, haut représentant de l'Union, ce sont les top jobs, les profils choisis diront beaucoup. Qui a la main sur la destinée du continent, comme notamment entre l'Allemagne et la France ? Avec nous, Isabelle Horry, la correspondante d'Europe 1. Une réunion officielle des 28 se tient cet après-midi chez vous à Bruxelles pour essayer de trouver des compromis. Et Isabelle, Emmanuel Macron joue gros.
Oui, et d'ailleurs, le président de la République sera dans la capitale européenne dès ce matin, alors que la réunion officielle des dirigeants ne commence qu'en milieu d'après-midi. Dès 10h, il va enchaîner les rendez-vous avec ses homologues, espagnols, portugais, les 3 premiers ministres du Benelux aussi. Mais le plus décisif, ce sera sa rencontre avec Angela Merkel. Le succès du sommet, tout entier, en dépend en grande partie. À l'heure qu'il est, Paris et Berlin sont toujours en désaccord. La chancelière allemande soutient le conservateur bavarois Manfred Weber, celui qui s'est fait traiter d'ectoplasme par Nathalie Loiseau. Officiellement, Emmanuel Macron, lui, n'a pas de poulain. Le président a des critères exigeants, mais il n'est n'est pas bloqué sur un parti ou une nationalité, explique-t-on côté français. Reste que pour lui qui a fait de l'Europe l'une de ses priorités, l'enjeu est de taille. Il faut quelqu'un qui porte sa vision de l'Union européenne, comme la Danoise Margrethe Vestager ou le Français Michel Barnier. Sinon, l'Élysée devra remballer ses ambitions, déjà fragilisées par plusieurs revers récents.
Isabelle Horry, la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Merci Isabelle. L'enquête sur la mort du footballeur argentin Emiliano Sala. La police britannique a annoncé hier soir l'arrestation d'un homme, un pilote. Les enquêteurs pensent qu'il a joué un rôle dans l'organisation du vol en direction de Cardiff. L'avion s'était écrasé. Le suspect est soupçonné d'homicide involontaire. C'est une nouvelle inquiétante diffusée par la télévision d'État iranienne. Les gardiens de la Révolution annoncent avoir abattu, je cite, un drone espion américain. Ils ajoutent que l'appareil avait violé l'espace aérien de la République islamique. Il devra se présenter devant ses juges. C'est une première sous la Ve République. Jamais un ancien chef de l'État n'avait été renvoyé devant un tribunal pour corruption. C'est ce qui va se passer pour Nicolas Sarkozy dans les prochains mois. Il a épuisé hier tous les recours pour éviter un procès. Il sera donc jugé dans l'affaire dite des écoutes. On lui reproche d'avoir essayé de corrompre un magistrat pour obtenir des informations sur le dossier Bettencourt. C'est un coup de canon de plus sur le champ de ruine de la droite. Les élus LR s'en seraient bien passés. Adrien Beck.
Au centre des discussions, à droite, le nom du futur président des Républicains plutôt que le sort de Nicolas Sarkozy. On n'a pas à être comptable du passé, lâche un député LR. Alors quelques historiques montent au créneau, comme l'élu du Pas-de-Calais Daniel Fasquelle, suivi du Vauclusien Julien Aubert.
C'est pas la première fois qu'on évoque des affaires autour de Nicolas Sarkozy. À chaque fois, ça s'est terminé par un non-lieu où à la fin, il a été blanchi.
Je note que certaines des pièces avaient été récupérées de manière un peu étrange. J'espère que la justice aura la même dureté sur ces points qu'elle l'a avec le principal prévenu.
Allusion aux écoutes qui ont permis de révéler des soupçons de corruption, une constante, en tout cas la droite, n'a pas besoin de ça en pleine secousse depuis son score aux européennes. Philippe Gosselin, député de la Manche.
C'est un président de la République il y a quelques années qui disait que parfois la merde ça volait en escadrille. C'est vrai qu'en ce moment on a l'impression que le porte-avions n'est pas très loin et que les escadrilles décollent par vagues régulières.
D'autant que pour ceux qui l'espéraient, ce nouvel épisode judiciaire éloigne encore un peu plus l'hypothèse d'un retour en politique de Nicolas Sarkozy.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Patrick Balkany risque gros, vous le savez, 7 ans de prison ferme ont été requis contre lui. Hier, le procès s'est terminé. Les plaidoiries de la défense, objectif de ses avocats, lui éviter d'être incarcéré. Compte rendu de l'audience, Salomé Legrand.
Ils ont opposé deux mondes, deux siècles. Le 20e auquel appartiendrait un Patrick Balkany certes démesuré, homme politique de caractère. Et le 21e siècle, celui des procureurs monstrueux de la morale publique, celui d'une justice qu'Éric Dupond-Moretti qualifie d'hygiéniste dans une moue de dégoût. Tour à tour, les deux avocats ont tenté d'éviter la prison à Patrick Balkany, l'un brandissant les peines dont écopent actuellement les meurtriers et les violeurs pour les comparer aux 11 ans requis au total dans les deux dossiers, fraude fiscale et corruption, l'autre réclamant la juste mesure, les justes proportions. À l'unisson, ils ont tenté de faire tomber, je cite, le fantasme Balkany, rappeler que jamais il ne s'est agi d'argent public et dénoncer un dossier politique, des accusations tenant à la colle sur des témoignages téléguidés et des montants exagérés. Murmurant presque ses derniers mots devant le tribunal, Patrick Balkany a lui tenté le tout pour le tout. Je n'aspire qu'à pouvoir rester auprès de ma femme parce qu'elle en a besoin.
Salomé Legrand pour Europe 1. Le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 18 octobre prochain. Des rafales de vent à 137 km/h, nous n'avions pas vu cela depuis la tempête de 1999. Toulouse a été particulièrement frappée avec des grêlons de 2 cm. Les images qui circulent sur Internet sont impressionnantes. Les orages violents ont aussi touché les Hauts-de-France. Certaines communes y ont été inondées. Attention, le temps reste orageux aujourd'hui sur les Pyrénées et le Nord-Est.
À suivre dans ce journal, les salariés de General Electric jettent leur dernière force dans la bataille. Ils font tout pour retarder le plan social. Nous serons à Belfort dans un instant. À tout de suite.
Il est 6h38, Mathieu Noël.
La suite du journal, David Doucan, direction Belfort, où les salariés de General Electric font tout pour retarder le plan social.
Oui, vous vous en souvenez forcément, le groupe a annoncé 1000 suppressions de postes, essentiellement à Belfort, en Franche-Comté. Les salariés sont entrés en résistance. Ils essaient par exemple d'empêcher la réunion qui doit formellement lancer le plan social. Reportage Arthur Mbaché.
Lundi matin, raté, un millier de salariés déterminés entre les directeurs de General Electric et la salle où est censé être lancé officiellement le plan plan social. La direction imagine un plan B et donne, sans le savoir, l'occasion au maire de Belfort, Damien Meslot, de soutenir la cause.
J'ai appris qu'ils avaient loué une salle et il se trouve que les locaux appartiennent à une société d'économie mixte dont je suis le président. Et j'ai souhaité qu'on annule cette réservation, car je ne souhaitais en aucun cas être complice de la mise en œuvre de ce plan social.
Résultat, nouvelle tentative de réunion demain matin, vendredi, même endroit que lundi, dans l'usine. Et même appel au rassemblement par les syndicalistes Francis Fontana et Alexis Esma.
On est rentré en guerre, le mot est dur, mais c'est la réalité.
Mais la direction peut considérer que le processus a commencé dès lors qu'elle a convoqué les élus en bonne et due forme, et elle pourrait considérer que le processus commence.
C'est pour ça que les syndicats ouvrent dès maintenant un nouveau front judiciaire en attaquant le plan social cet après-midi en référé au tribunal de grande instance. Belfort, Arthur Anne-Bachet, Europe 1.
Et prenons maintenant la direction de Bride-les-Bains, en Savoie. Depuis le 19 avril, les thermes sont fermés. On a repéré une bactérie, le pseudomonas, dans un des bassins. Pas de rouverture prévue avant le 19 juillet. C'est une catastrophe pour tout le tissu économique. Le reportage de notre correspondant dans la région, Rémi Pierre.
L'eau continue à couler dans les fontaines de la petite station thermale, mais le flot des curistes, lui, s'est tari. Les rues sont vides, se désole Bruno Pidey, porte-parole des commerces.
Les thermes conventionnés, qui représentent 80% de la richesse de Bride, aujourd'hui n'amènent plus rien puisque c'est fermé. Donc il manque 80% de clientèle sur Bride.
Et Bride est dans la faillite dans les mois à venir.
Conséquence, à midi, ça ne se bouscule pas vraiment au restaurant La Maison Marielle. Son gérant, Dominique Lessour.
Pour manger sur place, je suis à 45 couverts et je fais 120-130 couverts d'habitude au mois de juin. On avait réussi à mettre en place de la trésorerie et tout ça, et c'est en train de fondre comme la neige au soleil.
Et à la réception de l'hôtel Altice Valvert, Martine Chedal doit, elle, gérer annulation sur annulation. Elle n'a pu embaucher que 7 des 14 employés habituellement pour l'été et elle déplore l'opacité complète sur la date de la réouverture.
On aimerait plus de transparence et on veut des réponses. Combien de temps pour pouvoir s'organiser, que l'établissement thermal trouve un plan B pour le redémarrage de la station au plus vite. Pour l'été, il faut trouver une solution.
Car la direction des thermes est incapable de dire quand elle aura réussi à se débarrasser de la bactérie, incompréhensible pour les commerçants de la station. À Bride-les-Bains, Rémi Pierre. Europe.
Et c'est la fin de cette édition. Mathieu, j'avais prévu de vous parler de Neymar, mais nous n'avons pas le temps. Vous en direz un mot dans les titres,
mais
dans le rappel des titres.
Voilà. Évidemment, c'était le journal de David Doucan. On se répartit les rôles, on se répartit la tâche. David, journaliste au sérieux irréprochable, avec une prédilection pour la politique côté pile. Mélomane vintage, fan de Dario Moreno côté face.
Ah bon ?
Ce qui donne, si on mélange les deux.
Brigitte Macron, Macron.
Mais on a tous besoin de décompresser, David. Je vous souhaite une bonne journée.
Oh,
Céline Dacosta, on passe à la météo.
J'aurais pu la faire, celle-là. J'espère une interview avec la première dame.
Vous l'avez dans la tête toute la journée.
Toute la journée. Oui, avec des orages encore aujourd'hui. On les retrouve sur un axe sud-ouest-nord-est et ça va continuer demain. Ils seront présents sur une grande moitié sud. Samedi, sur les reliefs de l'est. Ça va se calmer dimanche, mais on devra en retrouver dès lundi sur la Bretagne. Les températures, elles baissent cet après-midi. 18 à 25 degrés. C'est encore chaud dans le sud-est, hein, près de la Méditerranée, avec 27 à 31 degrés. Mais ces températures vont repartir à la hausse dès samedi. On attend de fortes chaleurs toute la semaine prochaine et des orages qui devraient être violents.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, vous simplifiez l'actu, voilà la raison de vivre des trois fantastiques. Ici en pleurant une fois de plus ce matin en programme, Eva Rock nous donnera des nouvelles de l'ami Antoine de Maximi, celui qui risque de venir dormir chez vous. Et Mickaël Darmon évoquera lui un rapport parlementaire faisant la lumière sur la radicalisation dans les services publics.
Bon réveil à tous, il est 6h42. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Journée décisive à Bruxelles, les 28 doivent se mettre d'accord aujourd'hui pour l'attribution des postes de direction de l'Union européenne. Président de la Commission, président du Conseil font notamment l'objet d'un bras de fer entre les différents chefs d'État et de gouvernement, en particulier ceux de la France et de l'Allemagne. L'enquête sur la mort du footballeur argentin Emiliano Sala, la police britannique a annoncé hier soir l'arrestation d'un homme, un pilote. Les enquêteurs pensent qu'il a joué un rôle dans l'organisation du vol en direction de Cardiff. L'avion s'était écrasé. Le suspect est soupçonné d'homicide involontaire. Enfin, 300 millions d'euros, c'est le tarif fixé par le PSG pour qui voudrait s'offrir Neymar. Ce serait un record absolu. Le seul problème, selon le Parisien, c'est que presque aucun club de la planète ne peut se le permettre. La star brésilienne est sous contrat avec Paris jusqu'en 2022.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Chaque matin, lorsqu'il s'installe à mes côtés, je ressens ce que Bernard Diomède devait ressentir lorsqu'il jouait aux côtés de Zinedine Zidane. Une gratitude teintée de fascination. Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique. Et pour l'économie, cet être de génie. Ce fantastique parmi les fantastiques, ce journaliste dont la fraîcheur, dans un monde médiatique souvent trop aseptisé, fait du bien. Alors évidemment, chaque matin, en rentrant à la maison, Madame de Tarlet lui dit « Bon sang, Axel Loup, pourquoi il a encore fallu que tu la ramènes ?» Et c'est vrai que parfois, comme hier, Axel de Tarlet s'engage sur des terrains glissants lorsqu'il parle de sujets qu'il connaît mal, comme une émission de télé. Mais nous, on adore.
L'aventure reste hors du commun et donnerait presque envie de tenter l'expérience.
Et sans culotte.
Mais enfin, Axel.
Bah c'est nu et sans culotte.
Nu et culotté, c'est sans...
Ah oui, c'est nu et culotté.
À la fois parce
ça fait
que...
ma journée.
À la fois parce que c'est la tradition et parce que ce sera plus simple, on va commencer par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Ce matin, Mickaël, vous nous révélez les premières conclusions d'un rapport qui devrait faire beaucoup de bruit. La commission des lois va en effet rendre une mission d'information sur la radicalisation dans les services publics.
Et oui, une enquête de choc et complète menée par un tandem de députés, hein, le République Éric Diard et le marcheur Éric Pouya. Aucun terrain n'a été épargné. Police, gendarmerie, armée, prison, collectivités, hôpitaux, transports, universités. En tout, 52 auditions entre novembre dernier jusqu'à encore la semaine dernière. Les députés enquêteurs ont eu accès, des accès confidentiels et mené de nombreux entretiens à huis clos, tellement les propos étaient sensibles. C'est parce que c'est dans ces moments-là justement qu'ont été révélés comment des agents de services publics peuvent inciter à la violence politique dans les transports et autres donc lieux de services publics. Des actes aujourd'hui restés, jusqu'à aujourd'hui restés secrets. Haute hiérarchie, chef de service, police, pompiers, les personnes auditionnées ont accepté de livrer sans phare la réalité dont ils vivent et on nourrit un rapport qui sera rendu public le 26 juin. On peut quand même en révéler et dévoiler quelques pistes. Au fil de cette enquête, il est apparu par exemple que les phénomènes d'atteinte à la laïcité, à la radicalisation islamiste avec des discours potentiellement hostiles à la République, eh bien sont répandus dans ce qu'on appelle les professions de souveraineté, hein, armée, police, gendarmerie, univers militaire. Mais les députés veulent aussi tirer la sonnette d'alarme sur la situation dans le sport du monde amateur, où la situation, selon eux, se dégrade.
Alors, comment ça a utilisé cette enquête parlementaire sur un sujet aussi sensible ?
Oui, on pourrait dire un rapport de plus, hein, mais effectivement, depuis hier, eh bien, ce que l'on appelle les préconisations ont été listées, une trentaine en tout. L'une d'entre elles pourrait d'ailleurs pourrait demander que les éducateurs sportifs, par exemple, soient passés au criblage du FSPRT, vous savez, le fichier spécial prévention de radicalisation et terrorisme, un fichier de référence qui sert déjà à contrôler les personnes travaillant, par exemple, à la SNCF ou dans les forces de sécurité. Le gouvernement s'apprête à prendre connaissance de l'ensemble de ces mesures préconisées pour lutter contre la radicalisation et pas uniquement dans les prisons, on le verra. Et on verra aussi quelle suite il décidera de donner à cette mission d'information parlementaire, parce que laïcité et prévention de la radicalisation jusqu'à présent sont des sujets traités en toute discrétion par le gouvernement.
Merci beaucoup Mickaël Darmon pour cette analyse. On va passer à l'économie à présent avec le fameux Axel de Tarlet. Axel, jusqu'où ira la robotisation? Nombre de métiers peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle et c'est parfois très surprenant.
Oui, et d'abord, musique.
Dvorak.
Bravo. Et il s'agit de...
La Symphonie du Nouveau Monde.
Qui a été inachevée.
Oui.
Et bien donc, vous avez une start-up d'intelligence artificielle qui va la terminer.
Non.
C'est vrai, qui va la terminer. Et donc, cette fin de cette œuvre de Dvorak sera jouée le mois prochain à Prague par l'Orchestre Philharmonique de Prague. Voilà. Alors, ça nous interroge quand même, parce que la musique, c'est l'émotion. La musique, c'est l'âme, c'est l'art. Et se dire qu'un robot, qu'une intelligence artificielle est capable de parler à notre émotion, c'est, bah, ça quand même, ça nous questionne. Et il y a un deuxième événement en matière d'intelligence artificielle qui doit nous questionner. C'est une jeune fille qui s'appelle Michaela Souza, elle a 19 ans, elle est d'origine brésilienne, elle vit à Los Angeles, elle a 1 600 000 followers sur Internet, elle fait la promotion de sacs à main, de luxe, etc. Elle a les cheveux coupés au carré, le sourcil impeccable, elle a des taches de rousseur sur les joues, sauf que cette Michaela Souza n'existe pas. Et voilà, c'est une création d'intelligence artificielle. Et franchement, vous allez la voir, c'est assez trompeur. Vous voyez, auteur, compositeur, mannequin, tous ces métiers qu'on croyait vraiment s'adressant à la personne, tous ces métiers peuvent être remplacés par des robots. C'est assez incroyable, hein, et ça nous questionne sur l'avenir. Et figurez-vous qu'il y a une start-up française qui vient de créer un site internet qui s'appelle révolution-robot.fr, révolution-robot.fr, et vous saisissez votre profession et ce site vous donne la probabilité de voir votre métier remplacé par un robot d'ici 10 ans.
Terrifiant.
Alors j'ai tapé au hasard boulanger, eh bien, le résultat est qu'il y a 68% de chances que le métier de boulanger puisse être remplacé par un robot d'ici 10 ans. Alors, le site internet, d'ailleurs, dit, à notre avis, vous devriez changer de métier, créer votre boîte ou former pour acquérir de nouvelles compétences. Et l'explication, c'est que plus un métier est pénible et plus la tâche peut être automatisable. Mais quand vous voyez que même un mannequin peut être remplacé par une intelligence artificielle, ça vous questionne.
Un compositeur aussi.
Ouais, un compositeur. Alors, j'ai vu traducteur, par exemple, 52% de chances que ce métier soit remplacé par... et j'ai tapé, évidemment, journaliste.
Non, eh ben là, ne tapez pas.
29% de chance que votre métier puisse être remplacé. Eh ben quand même, vous devriez vous méfier.
Bah, c'est mieux que 68.
Vous devriez vous méfier, Mathieu. D'ailleurs, j'ai écouté, d'ailleurs ça peut intéresser la direction, j'ai trouvé une forme d'intelligence artificielle pour faire votre job. Et pour terminer cette chronique, on écoute.
Merci Axel de tarler pour cette excellente chronique. Comme d'habitude, ainsi se termine Debout les copains. Oups. J'allais oublier le Varrock.
Ah oui, merci.
Il est aussi concoint à ce moment. Bon,
il manque,
c'est parfait.
Il manque un peu de chaleur humaine.
Oui, mais il a réussi à recréer la connerie et ça, c'est beau. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Alors, vous vous souvenez donc qu'hier, je vous parlais du retour de Nu et Culotté sur France 5. Eh bien, ce soir, sur France 5, toujours, c'est le retour d'un autre globetrotteur original, Antoine de Maximy, qui, caméra fixée à son corps, continue de voyager avec un objectif, s'incruster le soir chez les habitants. Et alors, pour ce premier numéro de la saison de J'irai dormir chez vous, il part pour Chypre. Il divisé en deux depuis 1974. Vous savez que c'est une terre où ces divisions entre Chypriens d'origine grecque et Chypriens d'origine turque continuent de marquer le territoire et les esprits, comme au détour d'une ruelle quand Antoine de Maximy rencontre, dans la partie grecque, un habitant très accueillant.
On vous offre un café?
Yes.
Ça serait très gentil. Si vous avez le temps, si je ne vous dérange pas.
On est en vacances. Ce sera du café à la turque.
Ah, vous dites café turc, alors qu'on est au sud.
Ça s'appelle comme ça.
Oui, je sais ça.
Les Turcs l'ont fait connaître au monde. Il faut quand même leur reconnaître ça.
Et alors, dans la partie nord de l'île, celle qui est sous domination turque, les rapports sont beaucoup plus complexes. Antoine de Maximy essuie beaucoup, beaucoup de refus quand il demande à passer une nuit chez l'habitant. Et même au bar, autour d'un verre, il y a toujours quelqu'un pour vous rappeler que Chypre est divisée en deux. Essayez d'imaginer l'interlocuteur d'Antoine de Maximy, sorte de Golgoth barbu que l'on croise dans un épisode de Game of Thrones et beaucoup moins au café du quartier.
Si t'étais chypriote, je t'aurais tué. Mais puisque t'es enchanté, fais ce que tu veux.
Ah. So you will not kill me.
J'ai une déclaration. N'oublie jamais d'où tu es parti, car tu ne sais jamais où la route te mènera.
Et il a eu un peu peur, Antoine de Maximy. Magazine toujours aussi réjouissant. Il fatigue un peu, Antoine, de se prendre des vents, mais au moins, il ne feint pas. Il dort à l'hôtel quand il le faut. Il s'agace de certaines attitudes. Et puis, ce n'est pas grave, au fond, parce qu'il nous offre une autre vision des destinations visitées, loin, très loin des clichés de cartes postales. Et puis, cet épisode consacré à Chypre est particulièrement intéressant, avec une dimension géopolitique qu'il est indispensable d'appréhender si on veut comprendre les habitants. C'est sur France 5 à 20h55.
Merci beaucoup pour ce choix télé, Eva Rock. Merci Mickaël Darmon, Axel de Tarlé. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprêtent à passer le noble flambeau de l'information à Nikos Aliagas. La matinale d'Europe 1 arrive, précédée de son traditionnel débrief matinal. Porté donc par l'ineffable Nikos Aliagas, journaliste intègre, sincère.
Et sans culotte.
Sans concession. Sans concession, Axel. A tout de suite.
Il est 6h53. Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains s'achève, mais séchez vos larmes, mes doux agneaux, car vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Nikos, qui affiche en cette fin de saison une mine resplendissante, digne des meilleurs plagistes de Mykonos, quoi qu'en disent les mauvaises langues Céline Dacosta et Eva Rock.
Je me suis dit qu'il avait quand même sacrément pris un coup dur. Bon, il reste quand même, il dormirait pas dans la baignoire quand même, tu vois. Mais...
Ouais, elle ne réexpédierait pas la marchandise quand même, comme on dit dans le jargon. Quel jargon, me direz-vous? Et celui de la drague, bien sûr. Celui de la drague, tout le monde ne pense plus qu'à ça ici. On connaissait le béguin de Nikos pour Hélène Zélani, mais hier, comme dit le proverbe, faute de grive, on mange des merles. Nikos jetait son dévolu sur Céline Dacosta en pleine coupure pub.
C'est aussi la chanson préférée d'Hélène Zélani.
Vous dansez ?
Avec plaisir.
Si on vous dérange, vous le dites, hein, surtout. Bon. Enfin, une qui lui échappera toujours, c'est donc la fuyante Hélène Zélani. Nikos a commis un impair qui va probablement lui être fatal dans ce dossier. Une gaffe, probablement lourde de conséquences.
Merci beaucoup Hélène Zélani. Il était super votre journal ce matin. À demain.
Merci pour les autres.
Non, mais ils sont super tous les jours. Je fais toujours des gaffes, moi. Et celui-là particulièrement.
Ouais, bah, t'as beau sortir les rames, le mal est fait. Bon, tout ça n'a plus beaucoup d'importance. De toute façon, les vacances approchent à grands pas. Et j'ai envie de dire, ça se sent. La pression de la direction se relâche, c'est la saison des audaces pour les journalistes. La période aussi où on teste de nouvelles chroniques, comme par exemple une nouvelle rubrique gastronomique, la recette de David Abiker.
Trouver un beau malade, protéger la partie à mouler avec du boyau de porc étalé, répandre dessus un plâtre très liquide, faire sécher, verser ensuite de la cire chaude dans le moule et retrouver par des pigments les couleurs plus vraies que nature d'une maladie de peau abominable.
Bon appétit. C'est bon, c'est juste un pilote. Ça gagne à être peaufiné, mais il y a de l'idée. Par rapport à Maïté, c'est transgressif en tout cas. Enfin, c'est une demande du public depuis longtemps maintenant, 46 ans exactement, en savoir plus sur la vie hors micro de Julie, la voix d'Europe 1. Une vie palpitante, vous allez le voir, entre glamour et gag.
Je voudrais juste vous dire que Julie Leclerc, hier, a défilé.
Oui, des femmes de plus de 50 ans. Et c'était très réussi.
Et c'est quoi cette histoire de deux chaussures gauches ?
Non, elle attendait une paire de chaussures qu'elle a commandées sur Internet, une paire de chaussures rouges, et vous avez reçu la boîte, et à l'intérieur...
Deux pieds gauches.
Voilà.
Julie Leclerc qui défilait donc avec deux pieds gauches. Voilà le genre d'information que vous apprenez en antenne sur Europe 1. On l'embrasse et on attend les images, évidemment. Vous pouvez
merci.
Les envoyer.
Merci Mathieu Noël, merci Eva Rock. Passez une
merci
bonne journée. Passe,
bonne journée à vous, Nikos.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.